When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
La belle histoire de France, chapitre par chapitre, bienvenue. C'est le chapitre 47, Second Empire, la fête impériale. On en parlera avec Franck Ferrand, Marc Menant. Ravi de vous retrouver, messieurs. On parlera dans cette émission de cette époque du Second Empire, à commencer par le baptême du prince impérial, la question italienne, les expositions universelles ou encore les régences de l'impératrice Eugénie. Beaucoup à en dire, c'est parti. Bonjour mon cher Marc.
Bonjour ma chère Christine.
Bonjour mon Franck.
Bonjour Christine.
Alors, un apogée, le baptême du prince impérial. Le 14 juin 1856, c'est une date un peu oubliée dans l'histoire de France. Replongez-nous un petit peu dans ce moment pour commencer cette émission.
Pour nous, c'est une date oubliée, mais pour l'impératrice Eugénie, c'était, disait-elle, la plus belle date de sa vie. Mmh. Vous savez, il faut imaginer que l'impératrice Eugénie n'est morte qu'en 1920. Cette femme a très bien connu le train. Lorsqu'elle venait à Paris, elle prenait l'omnibus, vous imaginez. Elle montait dans des ascenseurs électriques. Et oui, parce qu'elle a vécu très âgée jusqu'à 94 ans. Elle est morte en 1920. Elle disait elle-même qu'elle aurait pu prendre l'aéroplane si elle n'avait craint que les journaux n'en fissent des gorges chaudes, disait-elle. Elle aimait tout. Elle aimait la mécanique. Elle aimait la navigation. Elle était tout le temps en mer. Enfin, elle aimait beaucoup les voyages. C'était une femme assez extraordinaire, il faut bien le dire. Et cette impératrice Eugénie, lorsqu'elle était à la fin de sa vie... C'est intéressant d'ailleurs ce qui nous arrive, parce que là, ça y est, nous commençons à toucher des personnages que nous avons indirectement connus, si je puis dire. Moi, j'ai très bien connu un monsieur dont le père, lorsqu'il était enfant, allait se promener au jardin des Tuileries. On lui disait, tu vois la dame en noir là-bas, quand elle passera tout à l'heure, elle va te donner des petits gâteaux, tu seras très gentil et tu feras la révérence. Parce que c'était l'ancienne impératrice Eugénie. Vous voyez, ça se rapproche de nous, dangereusement, si
oui,
je puis dire.
Oui, Vercingétorix, il est loin maintenant.
Là, c'est vrai que Vercingétorix, c'est un peu loin. Alors, cette impératrice, quand on lui parlait de cette date de juin 56, pour elle, c'était un moment extraordinaire parce que c'était le baptême de son fils, leur fils unique à Napoléon III et à Eugénie, comme disait son mari, ce fils unique qui était l'espoir de la dynastie, bien entendu, puisqu'il devait devenir Napoléon IV et il avait un titre, on l'appelait le prince impérial. Ce petit prince impérial, il va donc naître après quand même pas mal de mois et d'années de mariage entre ses parents. On ne peut pas dire que ça a été facile pour l'impératrice d'être enceinte. Il s'était marié, rappelez-vous, en janvier 53. Le nouvel empereur et cet espagnol qui s'appelait Eugénie de Montijo, que les Français ont tout de suite adopté, qui a su se faire aimer. Il faut dire que, comme nous le disions, la presse, l'ensemble de la société faisait tout pour la faire aimer en même temps. Elle était très belle. Elle avait un port majestueux, elle était très gentille, elle parlait magnifiquement, elle avait beaucoup de qualités, incontestablement. Elle était, d'une certaine façon, elle était faite pour être chef d'État. Alors, il faut l'imaginer dans ce carrosse avec l'empereur. Ils ont fait faire un carrosse pour le baptême qu'on peut voir encore aujourd'hui au musée des carrosses à Versailles. Ils sont là avec cet enfant qui est dans ces grands langes de baptême.
Vous savez, c'est dentelles extraordinaires.
On va lier le magnifique carrosse. Et ils sont là à saluer la foule. Et elle dit que ni l'un ni l'autre n'a parlé pendant tout le voyage jusqu'à Notre-Dame. C'est-à-dire qu'ils saluaient la foule. Ils étaient tellement heureux qu'ils se disaient que s'ils s'adressaient la parole, ils allaient fondre en larmes. Ça, c'est le grand jour du Second Empire. Mais vous connaissez le fameux dicton qui dit que la roche tarpéienne est proche du Capitole. Déjà en 1856, on pouvait commencer à renifler la fumée de tout ce qui allait se passer quelques années plus tard et qui emporterait dans la tourmente ce Second Empire.
Alors, on parlera tout à l'heure du rôle politique de l'impératrice Eugénie, un passage très important. Mais on va s'arrêter à cette question, la question italienne. Mon cher Marc, sous le Second Empire, on ne peut que noter l'ambiguïté affichée, peut-être même revendiquée par Napoléon III, cette question italienne.
Alors, je vous l'avais raconté la semaine dernière avec
son frère. Un petit peu, les débuts. Oui.
Avec son frère, très tôt, ils adhèrent à ce partie des partisans, espérons unifier un peuple morcelé qui subit le joug des Autrichiens depuis des années, et puis les États papaux. Eh bien, il y a Victor Emmanuel qui représenterait le symbole d'une nation où les uns et les autres porterait le même drapeau.
C'est le prince de la maison de Savoie hein, qui est donc roi de Piémont-Sardaigne à l'époque, parce qu'il y a Enchanté. Plein de petits états en Italie, hein, bien sûr.
Voilà. Alors, malheureusement, Napoléon finira par oublier les engagements de sa jeunesse. Son frère meurt lors d'une de ces batailles de... Est-ce qu'on peut appeler ça véritablement une bataille? Parce qu'on est plus dans la guérilla que dans la guerre en tant que telle. Bref, ça l'obsède. Il a sans doute une sorte de culpabilité qui est inscrite en lui et qui lui sera rappelée rapidement. Il nous faut aussi nous souvenir, c'est de ce qu'il promettait avant l'Empire. L'Empire, c'est la paix. Ah bah dites donc, quand on est confronté à la réalité, ça tourne vite dans un autre domaine. On a l'impression que le grand Napoléon est de nouveau présent, car cet homme de la pacification n'hésite pas à emporter ses troupes dans le combat. Il y a eu la guerre de Crimée face aux Russes, des victoires formidables.
Et puis là, c'est ce qui permettait de se rapprocher de l'Angleterre, parce que la peur, panique de Napoléon III pendant tout son règne, c'est d'avoir l'Angleterre contre lui. Il voulait pas rééditer les exploits de son oncle. Donc là, avec l'Angleterre, on s'est battu contre les Russes. Les Russes ont été un peu les laissés pour compte. Là,
et n'oublions pas, ou disons découvrons, qu'ils deviendront très très proches de la reine Victoria. Avec son épouse, Eugénie, ils vont à Londres et ils sont reçus, mais vraiment dans des conditions où on semble déjà croire que l'amitié profonde peut exister. Il y aura de leur des deux côtés une sorte de fascination. Et oui, la reine Victoria...
Le prince Albert, qui est le mari de la reine Victoria, ça fait deux couples. C'est presque l'ancêtre, vous savez, des relations amicales entre les chefs d'État tels qu'on nous les met en scène aujourd'hui.
Et le prince Albert est un homme qui adore la France. Il y a courtisé moult dames. Et donc cet homme du libertinage doit se sentir... Oh, il a quand même... Il était dans sa jeunesse.
Il a eu quelques aventures. Mais est-ce qu'on peut dire que le prince Albert était un libertin?
Enfin, je sais pas. Quand on regarde carnet d'adresses parisien, on a l'impression, bref.
Vous prenez un cas pour une généralité.
Non, mais c'est une grande histoire d'amour entre le prince Albert et la reine Victoria, ça c'est indubitable. D'accord. Donc, ils viendront en France, on évoquera cela au moment des grandes expositions universelles. Toujours est-il que, revenu dans la capitale, il y a les grandes fêtes qui sont tenues. Alors on dit la grande fête, mais au palais, il y a constamment les bals. On est dans ce désir, les opéras, Offenbach.
On en parle tout à l'heure.
Oui, oui, mais tout cela était intéressant. Et donc,
il veut nous parler de Saint Castiglione.
Non, mais c'est surtout de dire qu'un jour, ils se rendent à l'opéra. On est en 1858. On est là encore dans un beau carrosse. L'opéra à l'époque est rue Lepelletier. Et quand on approche de ce monument, soudain, terrible explosion, puis une deuxième, puis une troisième, trois bombes. L'impératrice se retrouve couverte de sang, quelques éclats sur l'empereur, et autour d'eux, ce ne sont que des corps inertes. Il y a plus des dizaines de morts et des blessés. Ils ont échappé à cette hécatombe, et là, Paris s'illumine.
Oui.
C'est un attentat qui a été organisé par des partisans italiens, Orsini et quelques camarades. Et cet Orsini en veut à Napoléon d'avoir tourné casaque et de ne pas avoir gardé sa parole. De là, la condamnation, bien évidemment, condamnation à mort, mais le désir pour Napoléon de retrouver peut-être le chemin de la réhabilitation morale. Il organise, grâce à l'un de ses médecins, un entretien avec Cavour, qui est le premier ministre de Victor Emmanuel, pour faire dire, bien voilà, il faut voir comment nous pourrions nous aider mutuellement.
Voilà Cavour, vous l'avez à l'écran, personnage assez étonnant. Hein, il a un physique qu'on ne peut pas oublier une fois qu'on l'a vu.
Et sous l'Empire,
oui, ça y est, on l'a retenu.
On a l'habitude aussi de prendre les bains, et en particulier dans les Vosges, à Plombières. Et grâce au médecin de Napoléon, Cavour se retrouve un bon jour, comme si, vous avez vu la corpulence qui est la sienne, il voulait perdre quelques grammes en bénéficiant du climat privilégié des Vosges. Il n'est pas question de se rencontrer officiellement. Il y a un fiacre qui passe, l'empereur se trouve dedans. Et avec Cavour, ils auront une longue discussion où ils s'engagent à venir soutenir militairement le roi Victor, enfin le futur roi Victor Emmanuel, avec en contrepartie...
Contre les Autrichiens. Hein,
contre les Autrichiens, contrepartie, la récupération de la Savoie et également du comté de Nice. C'est comme ça que Nice reviendra à la France. Et une campagne est tout de suite menée. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a un changement littéral dans la manière de se déplacer. Les Autrichiens sont encore aux chevaux, comme à l'époque du grand Napoléon, tandis que la France, il y a le chemin de fer. On va traverser les Alpes en quelques jours, 4 jours seulement, pour aller de Lyon au Piémont. C'est incroyable, ça va tellement vite, eh bien que l'intendance n'a pas suivi. On manque de tentes, on manque de bidons, on manque de sacs de couchage, on manque de tout, il y a 100 000 hommes qui sont là. Et quand l'empereur se présente dans le Piémont, c'est une ferveur inouïe. C'est-à-dire que partout, il y a des pancartes, vive le libérateur, des tonnes de roses qui sont lancées pour lui rendre hommage.
Décidément, les Napoléons ont l'habitude d'aller, entre guillemets, libérer l'Italie.
Voilà, c'est ça.
Okay,
et puis, il va y avoir la guerre en tant que telle. D'abord, Magenta, victoire au dernier moment grâce à MacMahon. MacMahon qui a l'audace d'une dernière attaque alors que les troupes françaises sont bien mal parties. Et puis, quelques jours plus tard, eh bien, cette bataille de Solferino. Bataille étrange, parce qu'elle se fait, je dirais, malgré les deux forces en présence. Victor Emmanuel se retrouve la veille avec l'empereur. Ils essaient de jauger des situations. Et le lendemain, eh bien, c'est presque par hasard que les troupes se retrouvent entremêlées. Alors qu'on avait prévu l'artillerie, ce sont des canons qui sont beaucoup plus performants. On a des obus et des fusils aussi striés. Bref, de quoi malheureusement provoquer de véritables effusions de sang. Mais là, c'est au contact direct. C'est à la baïonnette qu'il va falloir combattre les Autrichiens. Et c'est une véritable horreur, un carnage invraisemblable qui dure toute la journée. Aucune stratégie. On s'est surpris les uns et les autres. Donc, c'est à la hargne, au courage, à la démence que l'on se transperce. Et c'est comme ça que Henri Dunant, qui créera la Croix-Rouge, arrive au petit village le soir et découvre les rues ruisselantes de sang.
Il faut expliquer pourquoi Henri Dunant est un commis voyageur. En fait, voilà. Il a besoin de rencontrer Napoléon III pour avoir une autorisation pour mener des opérations de négoce. Et on lui dit, mais l'empereur est en campagne, donc le voilà parti en Italie. Il est suisse, lui, Henri Dunant. Et puis il va de champ de bataille en champ de bataille. Et quand il arrive sur celui de Solferino, il découvre cet océan de sang et tous ces blessés qui sont en train de mourir, faute de soins. Voilà.
Pardonnez-moi, messieurs, oui. Mais moi, je ne comprends pas, moi, cette question italienne. Expliquez-moi encore. J'aime bien vos regards et vos regards. Comment est-ce qu'elle a fait pour surgir et pourquoi un tel bain de sang?
Eh bien, parce qu'au départ, vous avez un peuple qui est explosé.
L'un après l'autre.
Oui, vous avez donc des morcellements. L'Italie, elle est là, elle rêve d'une unification. Vous avez des partisans qui monte un mouvement. Il y aura Garibaldi et compagnie, c'est-à-dire ces chemises rouges. Comment faire en sorte que les Autrichiens soient hors de la péninsule?
Les Autrichiens occupent un tiers de l'Italie, toute la partie nord. Or, le royaume de Piémont-Sardaigne veut récupérer cette partie nord qui est la plus industrielle, la plus importante, pour constituer la force qui permettra d'unifier l'Italie. Et Napoléon III vient soutenir ces Piémontais pour essayer d'obtenir l'indépendance de l'Italie et de chasser les Autrichiens dehors. Et la guerre dont on parle, c'est une guerre contre les Autrichiens.
Et merci ne pas oublier également, c'est le pape qui possède des territoires et il faut faire en sorte qu'il soit...
Dans un deuxième temps.
Voilà, dans un deuxième temps, le représentant du céleste, mais qu'il ne soit plus un prince terrien, si je puis dire.
Très intéressant. Je comprends mieux. Merci beaucoup pour cette
non, et puis... c'est très important. Marc était en train de dire ça. Oui. C'est vraiment important. C'est que ce Suisse-là, Henri Dunant, voyant cette catastrophe, se dit on va organiser, on va faire... un organisme qui sera d'origine suisse, qui sera neutre, qui sera pacifique et qui, quand il y aura des guerres, ira sur place pour soigner les blessés. Il crée la Croix-Rouge. Pourquoi ? Parce qu'il a inversé le drapeau suisse, tout simplement. Le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur fond rouge. Et bien là, ce sera une croix rouge sur fond blanc.
Et donc, on n'attaque plus les ambulances, on respecte les ambulances, on ne cherche plus à savoir de quelle nationalité on est quand on a face à soi un blessé, il faut simplement être dans l'humanisme le plus pur. Et lorsque l'homme est à terre, eh bien, il n'a plus de nation, il ne représente plus une nation, il doit simplement être secouru.
Merci beaucoup pour ce regard sur la scène internationale, on va dire, du Second Empire. Mais le Second Empire, c'est aussi la fête impériale. Et là, ça claque, on regarde. C'est peut-être ce que l'on retient en général du Second Empire, la fête. Non mais vous en parliez tout à l'heure mon cher Marc, Offenbach, la fête tout le temps.
Vous savez pourquoi on retient ça peut-être ?
Pourquoi est-ce qu'on retient ça ?
D'abord,
et c'était la fête avec l'élite, attention.
Oui. peut-être grâce d'abord et avant tout à la mode.
Alors, racontez-moi.
C'est-à-dire que vous voyez bien les tenues. À l'époque, les hommes portent beaucoup d'uniformes de toutes sortes. Même quand vous êtes ingénieur civil ou quand vous êtes chef de bureau dans une préfecture, enfin, vous avez tout le monde a un uniforme. Et puis, alors, on porte ses décorations, etc. Donc, tout ça est très rutilant, très brillant. Quant aux femmes, elles ont ces espèces de robes extraordinaires à crinoline. On vient d'inventer la crinoline.
C'est Eugénie qui est à l'origine.
Hein. Mais bien
sûr. C'est elle qui donne le la de la mode.
Et c'est elle qui va porter ses toilettes de plus en plus extraordinaires, un peu comme le faisait son modèle Marie-Antoinette, et qui donc va entraîner toutes ces dames. Il faut maintenant des dizaines et des dizaines de mètres d'étoffe pour faire une robe. À quoi ça sert, ça ? Ça sert à faire marcher à fond l'industrie textile française, qui est leader en Europe. C'est ça le but de l'opération, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on dit aux gens. Et donc, on organise de ces bals. Alors, bien sûr, les très grands bals qui ont lieu au Palais des Tuileries, chez Napoléon III. Bon, là, ce sont les bals éblouissants, avec des lustres en cristal gigantesques, avec des orchestres qui jouent la danse à la mode à l'époque, c'est-à-dire la valse. Vous imaginez, tout ça est magnifique. Mais vous avez les mêmes bals dans les salons privés, dans les préfectures, dans les mairies partout en France, etc.
Le baron Hoffmann à l'hôtel de ville. Hoffmann. C'est incroyable.
Il donne des balles.
Et il venait aussi, lui.
Ah ben non, il a ses propres balles, il fait presque concurrence.
Le bal de l'opéra et les balles des grands théâtres, on donne des balles partout.
Et
on
c'était avec la haute société internationale aussi qui venait.
C'est lié à trois choses. C'est lié d'abord à un afflux d'argent. On vous a parlé de la banque et des banquiers. On est dans cet essor du capitalisme qui fait que d'un seul coup, ruisselle littéralement sur les classes privilégiées des montagnes d'argent comme on n'en avait encore jamais vu dans l'histoire. Donc cet argent, ça permet de faire la fête. On fait des banquets somptueux, des bals magnifiques, on organise des opéras, etc. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que la France est devenue une sorte d'aimant pour tout ce qu'il y a de brillant en Europe à l'époque. Ça y est, c'est Paris-Ville-Lumière, hein, avec des musiciens notamment qui arrivent de partout, et le plus célèbre de tous, bien sûr, c'est Jacques Offenbach, le plus extraordinaire représentant de cette fête impériale, qui va inventer ce genre de l'opérette, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger qu'un opéra. C'est quand même très, très enlevé, c'est sublime du point de vue de la musique, ça fait chanter tout le monde et danser. Vous voyez cette espèce de... Voilà, on danse, on chante, on rit, on s'étourdit. La troisième raison, c'est qu'il faut faire oublier aux gens les assises du régime. Toujours cette histoire. Mmh. Il faut faire comme si tout allait bien. On oublie qu'il y a eu un coup d'état militaire.
Il y a quand même un rôle politique. Il y a quand même un rôle politique à cette fête
bien
derrière.
Sûr. Il faut éblouir le public. Et donc,
et le peuple est quand même en souffrance.
Alors,
je reviens toujours.
Non, mais c'est toujours très
c'est
important.
C'est beaucoup plus vrai, si je puis dire, qu'il y a deux émissions quand on avait eu ce petit débat.
Alors, parlez-nous du peuple en souffrance, mon cher Marc. Non, pas vous, Franck. C'est Marc qui le dit mieux que vous.
Qu'il y avait ce prolétariat qui se créait pendant la monarchie de Juillet. C'était les tout débuts, c'est vrai, mais c'était les tout débuts. Alors que là, avec le développement des grandes usines, là, d'un seul coup, oui, il y a du prolétariat.
Alors, dites-nous, justement.
Et là, on vit dans
pendant
des conditions...
que l'élite fait la fête.
Oui, alors, ce peuple est évacué de Paris. On a quelques bâtiments sociaux, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, qui sont emblématiques, mais qui ne reflètent pas la réalité. Beaucoup trop de gens ont été exclus de leur taudis. Et par conséquent, il leur faut se débrouiller comme ils peuvent. Et puis les emplois ne sont pas légion. Et les conditions qui sont réservées à ceux qui trouvent de quoi être salarié sont des conditions extrêmement drastiques. C'est-à-dire que c'est un patronat extrêmement strict. Et d'où des agitations qui se font et qui rendent la vie de l'employé. Il suffit de lire Zola. Zola témoigne merveilleusement de ce temps. Donc c'est le père Goriot. Ce sont ces gens qui sont là à oublier la réalité. Là, c'est l'assommoir.
Goriot, c'était Balzac, mais
oui, pardon.
Mais oui, en tout cas, c'est vrai que tous les Rougon-Macquart nous donnent une sorte de reflet de ce qu'a été la société du Second Empire et de ce goût de la bourse, de la spéculation, de la banque, voilà, du négoce et des grands magasins.
Les grands magasins, marque, hein, le Bon Marché, entre autres. Voilà. Là encore, chez Zola, on trouve cette
au bonheur des dames. Et puis le Ventre de Paris pour évoquer les Halles, etc. Il faut se plonger dans Zola pour se faire une idée de ce qu'a pu être l'extraordinaire fourmillement, la puissance, la richesse financière aussi de cette France du Second Empire.
Et dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de ces expositions universelles. On parlera d'Émile Ollivier, de l'Empire impérial. On parlera du conflit aussi avec la Prusse de Bismarck. Tout de suite, on marque une petite pause et on se retrouve. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de La Belle Histoire de France, Second Empire, la fête impériale. On a parlé avec vous, Marc Menon, Franck Ferrand, de la fête impériale, de ce Second Empire, où l'argent coule à flot, où l'élite s'amuse, où le peuple souffre. On en a parlé dans cette deuxième partie.
Ça, finalement, c'est l'histoire en général.
L'histoire en général.
S'amuse, le peuple souffre, c'est n'importe quelle époque, dans n'importe quel pays.
Bon, allez, on va découper cette phrase, on la mettra tout le temps. Alors, on va parler du conflit avec la Prusse de Bismarck, on parlera du rôle politique quand même de l'impératrice Eugénie. Et puis, on parlera aussi de l'empire autoritaire, l'empire libéral. Avant tout, messieurs, j'ai une question. Pourquoi ces expositions universelles de 1855 et 1867 ?
Pour faire, j'allais être très impoli, pour ennuyer les Anglais. Parce que les Anglais ont eu cette idée. C'est le prince Albert, dont on parlait tout à l'heure, Albert de Saxe-Cobourg, le mari chéri de la reine Victoria, qui en 1850 avait eu cette idée de construire un immense édifice de verre. Vous imaginez dans Londres, qu'on appelait Crystal Palace, et d'y organiser une grande exposition où on montrerait tous les trésors de l'industrie britannique. N'oubliez pas que l'Angleterre est un pays très peu agricole, c'est un pays de manufacture et de fabrication, et les Anglais, comme toujours, voulaient en mettre plein la vue au reste de l'Europe. Et donc, bien sûr que les Français ont vu ça, et nous on s'est dit, mais attendez, nous sommes quand même, nous restons, nous essayons de rester la première puissance du monde à l'époque. Et donc, il n'est pas question que les Anglais nous taillent des croupières de cette manière. Donc on va faire une exposition encore plus extraordinaire. Et nous, on va faire un palais de l'industrie et on va utiliser la moitié de Paris, du nouveau Paris de M. Haussmann, pour accueillir la terre entière et montrer tout ce dont la France est capable.
Et les Champs-Élysées, on peut le dire, naissent de là.
Renaissent, en tout cas.
Voilà, renaissent. Mais c'est-à-dire qu'il y a une impulsion inouïe. Alors, j'ai noté les chiffres, parce que les chiffres, je suis un peu fâché avec eux. 24 000 exposants. Il y aura 5 113 000 spectateurs en 6 mois. Et la reine Victoria, qui est invitée, et les yeux esbobillent devant ce qui lui est proposé. Parce que, comme le dit Franck, s'agit de montrer le dynamisme industriel de la France.
Ça, c'est le grand souper qui a eu lieu au château de Versailles, dans l'Opéra Royal, pour la réception de la reine Victoria.
Alors voilà, toujours ce principe des fêtes. Et j'ai l'impression qu'effectivement, l'élite a vécu des années aussi mirifiques que les années folles.
Au bas mot.
Au bas mot, voilà. Mais ce sont vraiment des périodes où ceux qui ont la chance d'appartenir à ce monde des élus financiers, c'est un élan formidable.
Exceptionnelle période.
L'image que vous venez de voir est amusante parce que ce soir-là, à l'Opéra Royal, qui est devenu impérial, bien entendu, on dit que les deux souveraines sont entrées en même temps dans la loge. Et alors, toute la foule, la salle que vous voyez avait les yeux rivés sur Victoria et Eugénie. Et il s'est passé une chose un peu désagréable. C'est qu'on a vu Victoria, l'impératrice Eugénie, au moment de s'asseoir, s'est retournée pour voir le fauteuil et pour s'asseoir sur le fauteuil. Et on a vu Victoria qui s'asseyait comme ça sans se retourner parce qu'elle était née reine, si je puis dire, et qu'elle était habituée. Elle savait très bien que quand la reine s'assied, il y a forcément quelqu'un qui pousse. Alors que l'impératrice, elle étant une parvenue, a été obligée de vérifier comme une bourgeoise. Et ça, évidemment, on en a fait des gorges chaudes, inutile de vous dire.
Passionnant. Alors, on en était où?
Il y aura une deuxième exposition.
Celle de 1867.
Encore.
C'est de 1867.
Puisque là, on a carrément...
12 ans plus tard, c'est pas longtemps. C'est pas longtemps après.
52 200 exposants, de 24 000 à 52 000. On a 11 millions de visiteurs. Et là, celui qui est invité, ce n'est pas du côté du trône d'Angleterre que l'on s'est tourné, mais c'est le tsar de Russie, Nicolas II, car Napoléon espère réunifier, je dirais, l'amitié entre ces deux grandes nations.
Cette exposition de 1867 a vu défiler à Paris tous les chefs d'État de la planète. C'est une chose incroyable. Et ça a donc été en même temps pour nous une remarquable opération, une remarquable opération diplomatique. N'oubliez pas qu'on sortait du marasme mexicain. Il y avait eu cette épouvantable opération du Mexique. Les Français avaient cru instaurer une sorte d'empire européen au Mexique. On avait confié le Mexique, la couronne, aux frères de l'empereur d'Autriche, l'archiduc Maximilien, et finalement on l'a abandonné sur place pour rapatrier les troupes après la défaite autrichienne de Sadova en 66, et ça a été un désastre, ça, pour le coup. Alors, la grande exposition de 1867 a peut-être aussi permis de faire passer la pilule. Vous voyez, il y a toujours une forte dimension politique dans tout ça. C'est le début, si j'insiste un peu depuis cette émission, et même depuis la précédente sur ce sujet, c'est que nous commençons à voir le début de ce qu'on appelle la communication en politique. Déjà, Napoléon Ier est aimait bien faire de la propagande, aimait bien avoir des symboles forts pour marquer les consciences, mais il n'y avait pas encore la presse du temps de Napoléon III. Il y a maintenant des millions de journaux qui courent à travers les provinces, et donc il faut impressionner le public. N'oubliez pas qu'on a la presse et le suffrage universel, donc il faut faire de l'image et de la communication.
Et la presse avec des photos. L'un des emblématiques photographes, c'est Nadar. Mais avant... il faut attendre qu'un peintre se laisse aller selon l'inspiration, tandis que c'est la vérité qui apparaît à la une des journaux. Vous imaginez comment même ceux qui ne savent pas lire se précipitent pour avoir une idée de ce qui se passe ici ou là dans l'Empire.
Donc Paris était bien le centre du monde, la France.
Ah oui, on peut dire
oui.
Londres et Paris sont les deux grandes villes, oui.
Formidable. Maintenant, on va passer à cette partie de l'Empire autoritaire à l'Empire libéral. Avec mon cher Franck, le règne de Napoléon III, après ses 4 années de présidence, peut être partagé en 2 périodes.
Oui,
l'Empire autoritaire...
Oh, c'est facile. Puis, voilà, vous savez, en fait, c'est les 2 décennies, d'une certaine manière. Oui. Hein. Napoléon III a été élu président en 1948. Alors, à l'époque, il est encore que Louis-Napoléon Bonaparte. Il devient l'empereur officiellement en 1851 et proclame l'Empire en 1852. Jusqu'à 1860, c'est ce qu'on appelle l'Empire autoritaire. Et vous avez compris comment ça fonctionne avec...
tout le monde en prison.
Une mainmise... Oh, n'exagérons rien. On a fait 26 000 arrestations au moment du coup d'État, mais on a relibéré quelques jours plus tard la quasi-totalité de ces gens. Non, mais il faut quand même le dire. Ne tombons pas non plus dans l'idée qu'il y aurait des goulags partout. Hein, c'est pas ça. Mais disons que c'est un empire policier, avec des préfets qui font leur travail de police partout, avec un quadrillage du territoire, etc. C'est un empire où il ne fait pas bon être opposant. On tolère l'opposition libérale qui s'oppose à la politique de Napoléon III. Mais on ne supporte pas l'opposition républicaine qui, elle, s'oppose au régime. Et alors là, les républicains sont littéralement pourchassés.
Bon, ça, très intéressant.
Ça, c'est jusqu'en 1860. Et puis, la deuxième décennie, de 1860 à 1870, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'Empire libéral. Pendant 10 ans, c'est la libéralisation. C'est-à-dire que Napoléon est arrivé au pouvoir en serrant les vis partout et en mettant de l'ordre. Et une fois qu'il a eu l'ordre en question, eh bien, il a fallu qu'il lâche peu à peu un peu de lest. Ça a été même de plus en plus nécessaire à mesure que sa politique passait de plus en plus mal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, vous avez beaucoup d'ordre à l'intérieur et une politique très nationale, quasiment révolutionnaire à l'extérieur. On l'a vu avec Marc et avec cette guerre d'Italie qui marque la fin de la période autoritaire du régime. Et puis, dans la deuxième partie, on va libéraliser à l'intérieur et avoir une politique de plus en plus impérialiste à l'extérieur, avec notamment la terrible affaire du Mexique dont on parlait. On pourrait parler de bien d'autres histoires, mais on ne va pas pouvoir tout vous raconter.
Malheureusement.
Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'est-ce que c'est que cet empire libéral, ça veut dire que le suffrage universel est maintenu, qu'on multiplie les expressions de ce suffrage, qu'on autorise un peu plus, je dis bien un peu plus, la presse, que l'on autorise le corps législatif. C'est pas tout à fait la Chambre des députés, hein. C'est une Chambre des députés au rabais, qu'on appelle donc le corps législatif, un peu une chambre d'enregistrement. Toute ressemblance avec d'autres périodes, etc., évidemment, serait tout à fait fortuite. On autorise cette chambre, ce corps législatif à faire des remontrances, à proposer, à avoir ce qu'on appelle un pouvoir d'initiative, c'est-à-dire qu'on peut faire des propositions de loi. Vous voyez, on libéralise un petit peu. Ça reste modéré, mais quand même, le régime, par ailleurs, essaie de s'assouplir, de s'humaniser. On lance de grandes opérations sociales pour lutter contre la misère. Ça, c'est une obsession pour Napoléon III et surtout pour son épouse, l'impératrice Eugénie. Bref, il y a toute cette dimension-là qui n'empêche pas qu'on continue à mener grand train à la cour. Hein. Il y a notamment ce qu'on appelle les séries, vous savez, les séries de Fontainebleau, les séries de Compiègne. Ce sont des semaines où l'empereur et l'impératrice sont à la campagne, sont de bonne humeur et reçoivent ce qu'il y a de plus brillant dans la société. Je pense à l'un des grands amis de Marc Menant, certain Pasteur, par exemple,
vous voyez,
qui est un habitué des séries de Compiègne. Bref, je ferme très vite cette parenthèse.
Non, mais moi, j'ai envie de l'ouvrir un petit peu comme cette parenthèse, parce que, non, mais alors, pendant une semaine, la haute société venait.
Mais oui, bien sûr.
Ils allaient à la chasse.
Voilà, exactement.
Ils ne faisaient rien de leur journée. Ben, ils se baladaient.
On jouait aux cartes, on jouait aux échecs, on écoutait de la musique le soir. Et puis surtout, on avait le grand privilège pour ces savants, pour ces ingénieurs,
oui,
pour ces musiciens.
Aussi.
On avait le privilège d'être dans l'intimité du couple impérial. Voilà. Vous imaginez. Donc c'était un grand honneur, bien entendu. Hein. C'était une façon de faire de la diplomatie.
Rapide, un petit mot rapide.
Non, ensuite, ben, et souvent, on a un personnage comme de Morny jusqu'à le moment où
Morny,
il disparaît.
Oui. Hein,
Morny. Et n'oublions pas qu'il y a le développement de tous les thermes partout dans le royaume, mais également d'une station comme Deauville. C'est-à-dire que c'est Morny.
Deauville, c'est Morny qui
l'a. C'est Morny qui lance cette station. Et il y a cette florescence, je dirais, de tout ce qui est un désir de plaisir et de vivre dans une sorte d'allégresse.
Mais Morny a été un petit peu mis de côté, précisément pour libéraliser le régime, car lui, il n'était pas pour. Hein. Vous avez compris que Morny n'est pas un tendre et ce n'est pas un ami du libéralisme. Alors, il y a un personnage qui va apparaître sur la fin. Il faut vous dire qu'il y a eu des élections en 57. Et à ces élections en 57, pour la première fois depuis que Louis-Napoléon était au pouvoir, pour la première fois, il y a eu des opposants qui ont été élus. Alors qu'on faisait bien, on truquait les scrutins et tout, inutile de vous dire, dans les grandes largeurs. Hein. On bourrait les urnes, comme on dit. Mais peu importe, là, on a quand même réussi à élire 5 députés républicains. Oh, oh, oh. Et parmi les 5, il y en a un qui s'appelle Émile Olivier, qui est donc député de Marseille. Et cet Émile Olivier, il fait partie de ce qu'on appelle le groupe des 5, hein, et il va finir par devenir un peu le symbole d'une opposition qu'on appelle le tiers parti, en fait. C'est-à-dire que il n'est ni favorable à l'empereur, ni favorable aux libéraux. Il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est bonapartiste de gauche, si on peut dire. C'est un peu les gaullistes de gauche de l'époque. Bref. Et c'est important quand même, parce qu'à la fin du régime, lorsque Napoléon III voit que les choses commencent à aller vraiment mal, là aussi il faudrait entrer dans bien des détails, et notamment dans la maladie de l'empereur, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler la fois prochaine quand on parlera de la guerre franco-prussienne. À mesure que l'on avance dans le temps, Napoléon III se dit « il faut donner des gages à l'opposition, il faut montrer que l'Empire se libéralise ». Et il fait une chose incroyable, le 2 janvier 1870, vous allez me dire « il était temps » puisque le Second Empire va chuter quelques mois plus tard. Le 2 janvier 1870, il appelle au pouvoir un certain Émile Ollivier. Qui devient donc le chef de l'exécutif, enfin le chef du cabinet, comme on dit à l'époque.
L'opposant.
C'est l'opposant qui va mener la politique, vous voyez. Donc ça montre quand même que, je ne sais pas ce que serait devenu le Second Empire si Napoléon III avait gagné la guerre contre les Prussiens, si son fils était devenu empereur à sa place. Il est probable qu'il aurait abdiqué d'ailleurs, car il était
très malade. Oui, parce que c'est ça, l'obsession de génie et de Napoléon III, c'est de faire le lit du prince impérial.
Bah, bien sûr.
Ils n'ont que ça en tête.
Préparer le règne suivant.
Voilà.
Mais ça, c'est l'obsession notamment de génie, bien sûr.
Alors justement, on va parler du rôle politique. On en a déjà un peu parlé, mais on va fouiller. Le rôle politique de l'impératrice Eugénie. À trois reprises, l'impératrice Eugénie aura donc exercé le pouvoir sous le titre de régente.
Oui, et on pourrait se gausser dans un premier temps de voir cette femme, comme dit Franck, un peu une parvenue. Et soudain, elle se retrouve...
Elle est d'une grande famille espagnole, mais elle ne fait pas partie du Gotha.
Voilà. Bon, et elle n'a pas de formation politique en tant que telle. Et elle paraît, au moment où l'empereur mène la guerre, c'est elle qui gère le pays, qui doit prendre des décisions. N'oublions pas, pour communiquer, le temps qu'il faut... En ce temps-là, il n'est pas question d'appeler au téléphone, il y a une réactivité. Donc
ça
ne
va pas tarder, mais
on n'y est pas encore. C'est toujours le pigeon pour le moment. Eh bien, elle s'impose. Et elle est tellement dans la capacité de montrer ce sens de la décision immédiate, de la synthétisation des informations. Et également, c'est une femme. Donc, les hommes ont du mal à se plier à une autorité féminine. Eh bien, elle, tout de suite, de par sa façon de se comporter, elle tranche. Il n'y a plus personne à ses côtés pour oser montrer la moindre opposition.
Elle va exercer cette régence à trois reprises.
À trois reprises.
Puisque la dernière fois, c'est la fois la plus célèbre, bien sûr, puisque là, c'est pendant cette guerre franco-prussienne en 70. En 65, déjà, elle avait exercé la régence au moment du voyage de Napoléon III en Algérie. Hein, comme il était parti pendant assez longtemps en Algérie, elle avait exercé la régence. Et puis la première fois, eh bien, c'était ce que nous racontait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire cette campagne que Napoléon avait menée en Italie, et donc pendant qu'il était sur le front en Italie, elle avait exercé une toute première régence. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'était très peu manifestée, elle avait assisté au conseil, mais elle n'avait même pas pris la parole. Vous voyez, elle écoutait lors de la première régence. La deuxième régence, elle s'intéresse aux affaires, elle reçoit les ambassadeurs, elle commence à poser des questions au gouvernement, et la troisième régence, elle gouverne le pays.
C'est incroyable.
On a parlé il y a quelques semaines, là, avec toutes ces candidates à l'élection présidentielle, on se demandait depuis quand il n'y avait pas eu de chef d'État féminin en France. Eh bien, précisément, depuis le 4 septembre 1860. 70, jour de l'abdication de l'impératrice régente.
Et elle régente véritablement. C'est-à-dire que Napoléon, on ne va pas développer tout aujourd'hui, mais néanmoins, puisqu'on on l'aborde, lorsque Napoléon, pris par la maladie, ne tient plus à cheval, qu'il voit que ses troupes sont en pleine déliquescence, il dit bien, j'arrête, je rentre à Paris, lui écrit, et elle lui dit, il n'en est pas question, si vous devez mourir, mourez, mais mourez dans la dignité, vous êtes un Napoléon, vous êtes un Bonaparte.
Cette guerre, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, mais cette guerre que tout le monde croyait gagnée, parce que la France était supposée posséder la plus puissante armée du monde, on disait que pas un bouton de guêtre ne manquait, etc., ben, on a vu ce qui s'est passé en réalité. Celui qui s'est le plus ridiculisé dans cette affaire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est le pauvre Émile Ollivier, qui par ailleurs avait tant de grandes qualités, mais là franchement, il déclare aux parlementaires, au moment même où on va déclarer la guerre, il dit ben oui, alors qu'il avait promis l'inverse quelques semaines plus tôt, il avait dit jamais de guerre contre la Prusse, etc. Ben là, finalement, il y a eu ce qu'on appelle la dépêche d'Ems. On vous racontera ça la fois prochaine, c'est une histoire. Ça, je pense que ça fera le récit de Marc, probablement, c'est un sujet extraordinaire. Eh bien, il dit, Émile Ollivier, il dit nous acceptons cette guerre le cœur léger. Et alors là, on lui dit comment, monsieur, comment ? Et il voulait dire le cœur plein de courage. Il répète, Nous l'acceptons, le cœur léger. Et on l'appellera désormais Émile Olivier Cœur Léger. C'est dommage, ça le poursuivra jusqu'à la fin de ses jours. Il sera obligé d'abandonner la carrière politique, il faut bien le dire.
Monsieur Chavez, notez un petit mot sur le canal de Suez. On en a parlé.
Ah oui,
très important.
Cousin, Ferdinand de Lesseps.
Eh oui,
de génie.
Eh oui.
Et alors, c'est un vieux rêve, ça aussi. Napoléon le Grand avait déjà pensé à ce qu'il y ait ce canal entre l'Égypte et l'autre côté du canal. Et Ferdinand de Lesseps vient avec ses plans. À un moment donné, Napoléon n'est pas spécialement d'accord. Et c'est Eugénie qui se bat pour imposer ce projet gigantesque et qui est un point déterminant dans la stratégie de la politique internationale et en particulier pour mieux s'imposer face aux Anglais dans les affaires du monde.
Oui, et puis pour diminuer l'influence de l'Empire ottoman qui déjà n'était à l'époque plus que l'ombre de lui-même et qui avait subi les assauts de la Russie. C'est ce qui avait justifié en 1854 ce qu'on appelle la guerre de Crimée. Bon.
Voilà.
Mais ce canal de Suez va être inauguré par l'impératrice parce que l'empereur est trop malade pour se rendre lui-même en Égypte. Elle va faire le voyage et on dit que c'est lors de ce voyage en Égypte, donc en 1869, hein, juste avant la chute du Second Empire, c'est lors de ce voyage en Égypte que l'impératrice a contracté le goût du voyage et qu'ensuite, vous savez, jusqu'à la fin de ses jours, elle voyagera de façon compulsive. Il paraît que c'est ça qui lui en a donné l'envie et le goût.
Dans la prochaine émission, on parlera de l'effondrement, hein, 1870, mais j'aimerais quand même peut-être juste un dernier mot sur, on en a un peu parlé, on le sait, le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III va entrer en guerre contre la Prusse de Guillaume Ier. Et ce conflit va entraîner la chute du Second Empire. Comment on en est arrivé là ?
Là, il y a un homme.
Eugénie joue un grand rôle quand même. Elle pousse à la roue.
Disons que Eugénie est favorable à une guerre qui pourrait redorer le blason du régime et qui pourrait donner à son fils, une sorte de lustre supplémentaire. Bon, mais elle a été de très mauvais conseils. L'impératrice Eugénie avait sans doute de grandes qualités. Moi, c'est une femme que j'aime bien, mais il faut reconnaître qu'elle était politiquement déplorable. Quand elle avait une idée, vous pouviez être à peu près sûr que c'était la pire possible. Et donc, elle nous a entraînés là dans des choses un peu catastrophiques.
Au niveau international, vous voulez dire
National, international.
Ah bon,
oui, elle était extrêmement réactionnaire, ouais. Extrêmement d'un catholicisme très fervent. Ça la regarde à titre privé, mais d'un point de vue public, ça a poussé à des excès.
Mais Napoléon III lui cède souvent parce qu'il est tellement infidèle. Elle fait des crises de jalousie comme il n'est pas permis. Bon, il faut bien la pacifier. Et quand elle exige quelque chose et qu'elle devient tyrannique, il dit faisons.
Dans l'affaire du Mexique, c'est elle qui a entraîné l'empereur. Il est très malade, n'oubliez pas. Hein. Il a une maladie, ce qu'on appelait à l'époque la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il a des calculs rénaux absolument effroyables avec des coliques néphrétiques qui le font souffrir le martyr et qui font qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Les visiteurs officiels qui ont rencontré Napoléon III dans les deux dernières années de son règne disaient qu'il était comme une momie, qu'il peinait à parler tellement il souffrait. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'il soit dans les meilleures conditions pour régner. Et l'impératrice, elle, qui est en pleine forme, qui a 18 ans de moins que lui en plus, et puis qui avait une santé d'acier, elle le prouvera en mourant presque centenaire, cette impératrice a tendance, c'est vrai, à s'arroger un peu le pouvoir. Mais le vrai responsable de la guerre, ce n'est pas Eugénie. Le vrai responsable de la guerre, c'est un personnage dont nous n'avons peut-être pas trop, nous, à parler, parce que c'est un personnage étranger. Il ne fait pas partie directement de l'histoire de France. Mais c'est le diable absolu. C'est le nouveau Napoléon. Manque de chance, ce nouveau Napoléon est un Prussien, c'est un génie de la stratégie, c'est un génie de la politique, c'est un homme qui ne pense qu'au pouvoir, à l'écrasement des peuples, à l'hégémonie tous azimuts. Il s'appelle Bismarck et il avait dans l'intention de créer un grand empire autour de la Prusse et Bismarck nous a conduit, malgré nous, à la guerre. Et Marc nous racontera la fois prochaine de quelle façon, parce qu'en plus, il a rusé. Cette histoire de dépêche d'Ems, c'est une pure et simple machination, c'est une manipulation d'opinion publique qui nous a précipités dans la guerre.
On en parlera la prochaine fois. Merci. C'est vraiment une émission encore intéressante. On a vu le bouleversement de la France industrielle, politique, à tout point de vue à ce moment-là. On va faire une petite fiche de révision avant de terminer,
oui.
Si vous voulez bien.
Si vous avez bien compris. compris les guerres d'Italie.
Ah, mais j'ai adoré. J'ai adoré le résumé des guerres d'Italie. Messieurs, donc je disais, 1856, le baptême du prince impérial, héritier de la couronne, marque l'apogée du Second Empire, époque de modernisation du pays par l'essor du capitalisme. Mmh. Convaincu par le ministre piémontais Cavour, Napoléon III aide les Italiens à constituer leur unité contre la tutelle autrichienne. Victoire de Solferino en 1850.
Ben c'est bien ça, vous voyez, la campagne italienne de Napoléon III.
Voilà, c'est ça. Et puis alors que la France a ébloui le monde à coups de grandes fêtes, d'expositions universelles, le régime évolue peu à peu vers plus de liberté politique et sociale, mais la maladie de Napoléon III favorise un glissement vers le conflit avec la Prusse. Mais si on termine avec vos deux livres, j'ai 20 sur 20 quand même.
Non, je donne rarement 20 sur 20. Moi, je suis prône à aller à 19.
J'espère mais moi, je dirais 20 sur 20 parce
que voilà, j'espère depuis un an 20 sur 20. Ça fait un an qu'on fait des émissions, un an que j'espère un 20 sur 20. Alors, on va avoir votre livre après. Votre livre, mon cher Franck.
Je voulais vous...
Oui, vous avez parlé d'Éric Anceau. Napoléon III, un saint.
Non, il a changé de casaque.
C'est un très bon livre.
Ah oui,
ça.
Pascal Clément, Persigny. Voilà. Parce qu'on a beaucoup hésité, il y a tellement de livres.
Mais il y en a beaucoup. Et je me suis dit que la dernière fois, Marc nous a parlé de ce personnage, ce Persigny, mais c'est vrai qu'on est passé très vite quand même, parce qu'on n'avait pas le temps. Ouais. Et c'est peut-être la clé de tout. L'homme qui a inventé Napoléon III, c'était ce Persigny que nous raconte Clément, Pascal Clément chez Perrin.
Et le titre résume tout. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Napoléon III.
En deux mots, ça veut dire quoi? On prend un peu de temps juste, mais c'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est lui qui convainc Napoléon et qui organise, qui manigance toute le terreau qui permettra à Napoléon, Napoléon, de devenir président. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'élection comme député, il n'y aurait pas eu d'élection comme président. Et il, malheureusement, dans un premier temps, il l'a poussé à mener les coups d'État, qui sont des échecs, mais il est l'aiguillon de Napoléon III. Mon livre, vous le voulez quand même ?
Un petit peu, allez.
Allez, ça sera Haussmann. Le baron Haussmann, un très, 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 très beau livre.
De Nicolas Chaudin, qui connaît tout ça par cœur et qui avait aussi beaucoup travaillé sur le grand incendie de la Commune.
Voilà, je me suis régalé à le lire.
Ah, ben j'espère que vous aussi. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, 1870, l'effondrement. On en parle. Merci Marc, merci Franck et à la semaine prochaine.